Ça avait l'air de lui faire de la peine, l'évolution actuelle.
Niggas are scared of revolution.
De la bande organisée, de la bande
et
faible.
Aimable débauché.
Et les flics du blanc.
Et les flics du blanc.
Blocage.
Bordeaux métropole.
Alors ils sortent, passent leur vie dans les bars et les salles de concert.
Il est alors possible de tuer. On le peut bien, n'est-ce pas?
Ces personnages ne vont la quitter que pour se perdre à jamais.
Monsieur, pourquoi allez-vous aujourd'hui?
Radio Potlatch, un dimanche sur deux à 16h30, 90.1 sur la clé des ondes.
Et maintenant, ça va être le grand retour de la chronique « Tout le monde déteste Bordeaux Métropole ».
Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole.
Lié à l'embellissement de la ville et à sa réputation. Nous avons la chance d'avoir de vastes espaces urbanisables. Plus nous avons des handicaps, 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 plus nous avons des handicaps.
Ils lancent des gaz lacrymogènes, vous voyez, des manifestants envoient des projectiles. Vous voyez, là, ils essayent de se protéger, certains essayent de se protéger contre les gaz lacrymogènes. Et là, vous entendez les slogans. Tout le monde déteste.
Bordeaux Métropole.
La Garonne, dans ses élans assassins, emporte régulièrement avec elle des jeunes hommes éméchés et désespérés. La Garonne est la chance qu'ils rencontrent au bout d'une nuit effroyable. Le malheur est l'attirail que déballe Bordeaux Métropole pour les empêcher de succomber à la tentation de mourir absurdement. Brigade fluviale qui attend que les hommes tombent. Barrière de sécurité qui trace une ligne droite le long des berges. Bouée de sauvetage qu'on aimerait embarquer à la plage. Maintenant, quand je marche la nuit sur le pont de pierre, lorsque je pose mes mains sur la rambarde, mon visage, attiré par les tourbillons, se parle à lui-même. La brigade fluviale te surveille. Elle sera là pour te repêcher si tu bascules. Avec ses filets, ses projecteurs, ses bouches à bouches insipides. On ne peut plus mourir tranquillement dans cette ville. La ville ne veut plus que tu meures. Elle veut te maintenir vivant dans ta misérable existence. Elle t'aime de cette manière, comme on aime un chien de compagnie. Je choisis la destruction dans cet ordre. La brigade fluviale, les barrières de sécurité, les bouées de sauvetage, et enfin, moi-même.
Je ne sais plus comment j'entrais dans ce fleuve sombre. Tant pesé dans ma gorge, le soleil chargé d'ombre, lorsque du vrai chemin je m'étais écarté. Et ces ombres qui sont dans l'eau noire fortunée, espérant tôt ou tard en sortir pardonné et monter au bonheur après ce triste sort. Alors fut apaisée mon âme inquiète dans la vase agitée de mon cœur, la tempête que cette affreuse nuit avait fait y gronder.
Je choisis la destruction dans cet ordre.
Quelle place faisons-nous à la mort dans nos vies par Auxilio et Gogo Dance.
Vivre la mort. Léon Tolstoï, La mort d'Ivan Ilitch. De quoi as-tu besoin ? Telle fut la première idée claire, capable d'être exprimée en paroles, qu'il entendit. De quoi as-tu besoin ? De quoi as-tu besoin ? Se répéta-t-il. De quoi ? Ne pas souffrir. Vivre, répondit-il. Et il se fit de nouveau attentif, son être tendu à tel point que la douleur même ne parvenait pas à le distraire. Vivre ? Comment vivre ? Demanda la voix de l'âme. Oui, vivre comme je vivais avant, agréablement, facilement. Comment vivais-tu agréablement et facilement ? Demanda la voix. Il se mit à passer en revue en imagination les meilleurs instants de son existence agréable. Mais, chose étrange, ces instants prenaient à ses yeux un aspect tout différent de celui qu'ils avaient jadis. Tous, excepté les premiers souvenirs de son enfance. Il y avait eu dans son enfance quelque chose de vraiment beau, qui l'aurait aidé à vivre maintenant, s'il avait pu le ressusciter. Mais celui qui avait vécu cette chose n'existait plus. C'était comme s'il s'était agi d'un autre homme. Et plus les souvenirs d'Ivan Ilitch s'éloignaient de son enfance, plus ils se rapprochaient du présent, plus les joies qu'il avait vécues lui apparaissaient douteuses et vides. Que signifie donc cela ? Pourquoi ? Impossible. Il ne se peut pas que la vie soit si stupide, si vilaine. Et si elle est vraiment vilaine et stupide, pourquoi faut-il mourir, et mourir en souffrant ? Il y a là quelque chose qui ne va pas. Peut-être que je n'ai pas vécu comme j'aurais dû, songeait-il. Cela ne se peut, puisque j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Et il chassait aussitôt, comme inconcevable, l'unique solution de l'énigme de la vie et de la mort.
Toute sa vie, Ivan Ilitch a nié sa mort. Mais voilà qu'elle guette. Impossible de l'ignorer. L'heure d'un retour sur sa vie, quelque chose ne colle pas. Il entrevoit les mensonges, l'hypocrisie, la solitude. Comme une absence à la vie, au monde, à lui-même. Mais c'est trop tard. Rien de ce qu'il n'a vécu ne peut l'aider à faire face à sa mort.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Nous sommes privés de nos morts. En Occident, la mort est bannie, occultée, niée. Elle n'a pas lieu. Elle est le néant. À sa place, une angoisse sourde et diffuse. Et au moment où on rencontre la mort, ça ressemble à ça.
Bonjour à tous, bonjour maître.
Bonjour.
Avec vous, nous parlons des formalités à remplir après le décès d'un proche. Alors c'est une période évidemment très difficile pour la famille qui se trouve souvent désemparée. Et pourtant, il y a beaucoup d'obligations à remplir. Alors qui faut-il contacter ?
La première formalité à effectuer après le décès, c'est faire constater ce décès. Seul un médecin est habilité à établir un certificat de décès. Il faut donc contacter directement un médecin. Si le décès a lieu à l'hôpital, ça se fait automatiquement. Une fois ce décès constaté, on peut déplacer le corps et faire appel à un établissement de pompes funèbres. Les pompes funèbres vont aider la famille à organiser les funérailles de la personne, notamment en les aidant dans la rédaction du faire-part, dans les parutions qui doivent être faites dans les différents journaux, dans les choix d'inhumation, crémation, etc. Les pompes funèbres vont également déclarer à la commune le décès et recevoir un extrait de décès qu'ils remettent. Donc les pompes funèbres remettront ces extraits à la famille. La famille a besoin des différents extraits pour les différentes formalités postérieures à effectuer.
Qui apprendrait aux hommes à mourir, leur apprendrait à vivre.
Faire de la place à la mort. Ne pas seulement l'accepter comme événement, mais comme possibilité de tous les instants. Non pas opposé ou contraire, mais partie intégrante de la vie.
La voie du samouraï se trouve dans la mort. On doit se livrer chaque jour à la méditation sur une mort inévitable. Chaque jour, quand le corps et l'esprit sont en paix, on doit méditer sur l'idée d'être déchiré par des flèches, des fusils, des lances et des épées. Enlevé par le déferlement des vagues, projeté au cœur d'un immense feu, frappé par un éclair, secoué à mort par un grand tremblement de terre, précipité du haut de falaises de 30 000 mètres, emporté par une maladie mortelle ou contraint à se faire seppuku à la mort de son maître. Et chaque jour, sans faute, on doit se considérer comme mort. Telle est la substance de la voix du samouraï.
Refuser d'être dépossédé de sa mort, c'est refuser d'être dépossédé de sa vie. Dans les années 80, avec sa bande Os Cangaceros, Andrea Doria pense la vie autrement, en rupture avec la société telle qu'elle se présente alors. Dans une perspective révolutionnaire, ils vont se réapproprier ce dont on voudrait les déposséder, leur vie. En 1985, Andrea apprend qu'elle a un cancer. 5 ans plus tard, après opération, rayons et chimiothérapie, on lui propose un traitement expérimental, n'espérant rien de plus de la médecine, refusant de se soumettre à cette non-vie jusqu'à sa fin, elle décide de prendre sa mort en main. Elle retourne vivre parmi ses amis, jusqu'au moment de sa mort qu'ils ont choisi ensemble.
« 14 août 1991. J'ai donné du poids à ma vie pour alléger ma mort. Vivre sans risque, c'est choisir le pire, celui de mourir pauvre. Qu'est-ce que le destin, sinon cette ligne de vie, cette perspective déterminée par les refus successifs de ma jeunesse ? Reprendre le temps, voler l'argent, inventer des dépenses sociales à ma guise, désirer la richesse, connaître l'aliénation avec mes amis ? C'était ça ma vie. J'avais fui bien des enfermements. D'abord le travail salarié. En 15 années dehors la loi, j'avais évité la prison, mais pas la maladie. Je n'allais pas abandonner le besoin de faire de ma vie mon expérience pour me protéger d'angoisses qui pouvaient s'avérer mortelles. Perdre ma vie est un risque plus grand que celui de mourir. Perdre la liberté sous le chantage répété d'une mort annoncée est incomparablement plus grave. Le chantage, ici, n'était pas la terreur de l'enfermement, mais celui intérieur d'une dégénérescence progressive et irréversible. Mon évasion pour l'ultime grand jeu de la vie m'a offert un point de vue imprenable à partir duquel j'ai ressaisi ma finalité, renforcée d'une volonté invincible. Mon histoire serait somme toute banale. Se tirer de l'hosto avant le dernier stade n'est pas spécialement original. Elle ne l'est pas. C'est une petite expérience dont j'ai fait tout un flanc. J'allais être dépossédée de ma faim. J'allais donc être dépossédée de ma vie, moi qui l'avais fondée sur un refus, celui de la dépossession. En me réappropriant ma faim, je retrouve ce qui était au commencement, l'intelligence de mon refus.
Est-ce que vous avez peur de la mort ? Est-ce que vous avez eu peur de mourir ?
Non, je n'ai pas peur de la mort.
Vous y avez pensé ?
J'y ai pensé, je l'ai accepté, ça avait dû arriver, je pense que j'étais prête aussi.
Si Andrea peut penser sa mort ainsi, c'est parce que cette question s'est imposée à elle dès l'instant où elle a choisi de se réapproprier pleinement sa vie, avec tout ce qu'elle contient de mise en jeu.
1987, reprise et détournement, c'est mon style, celui de mes proches. La pensée de la mort, je l'avais rencontrée d'une certaine façon, socialement, dans le risque calculé pris à plusieurs pour ne pas travailler. Car pour moi, la prison, c'est la mort. le fait de jouer ensemble le risque de la prison est déjà une manière d'apprivoiser la mort.
Ça vaut la peine de mourir. Ça vaut la peine de tuer. Ça vaut la peine d'aller en enfer. Amen.
Cette réflexion, elle ne l'a pas menée seule. C'est à travers ses amitiés que la mort cesse d'être une affaire individuelle, pour s'inscrire dans une construction commune de la vie.
Mai 1991. Et mieux encore, au luxe, aux jouissances suprêmes, j'ai organisé ma fin avec mes amis comme une situation que l'on construit. La date de la commune séparation est décidée. Ce point d'accord dans le temps est un repère pour un départ, fin et commencement à la fois. Je serai dans le futur de mes amis, dans leurs orientations communes. Je dis « nous » en parlant d'un temps où je ne serai plus. Voilà de quoi relativiser l'idée de la mort ordinairement admise. Cette date, plus ou moins arbitrairement choisie, il faut la voir comme un seuil de qualité voulu ensemble, en deçà duquel il serait sacrilège de revenir. En décidant du style de ma mort autrement qu'en privé, avec d'autres, je dépasse la seule affirmation d'une liberté individuelle à l'encontre d'un processus de dégradation qui m'échappe du monde, de mon corps, et qu'une volonté à elle seule ne pourrait bouleverser. Ma liberté ? Ni victoire, ni défaite. Je suis sûre de mes amis.
Pour mes péchés, tu me connais, je suis assez spécial pour de la monnaie. Ne manque manier la scie pour des billets. Et si t'entendais, seul le crime fait.
Ok, then listen. Let's not get caught. What are you talking about? Let's keep going. What do you mean? Go! You sure? Yeah.
Thank you.
quarantaine. Qu'est-ce que tu nous as préparé?
Alors, d'abord, je vais vous proposer d'écouter un morceau de LTNO, qui parle de... qui est une chanson sur quelqu'un qui dit comment il veut son suicide, qui part se suicider, il est en voiture et il veut se suicider avec classe. Et ensuite, un petit... un extrait de bouillasse, de la grande bouillasse du monde entier, sur les flics qui sauvent les gens du suicide grâce au taser. Voilà.
Ok, merci. C'est parti.
Qu'on a maintenu en vie certains suicidaires. Le maintien forcé en vie, tu te rends compte? Il y a une force armée, super balèze, qui te maintient en vie pour que tu continues, encore et encore, à supporter ce que tu ne peux plus supporter. Des diables merdiques dans un enfer de merde. Qui t'empêche de vivre comme tu l'entends, qui te traque, te cerne, au cas où tu veuilles autre chose que de la soupe au guano, et qui, au dernier moment, t'empêche de crever comme tu l'entends. C'est exactement comme dans les supermarchés. Le vigile n'est pas là pour empêcher de voler. Il est là pour obliger à payer. Pareil avec le flic. Il n'est pas là pour empêcher de mourir. Il est là pour obliger à obéir. Quand le flic tire sur le suicidaire, c'est lui-même qui l'a déjà suicidé comme une merde. Avec son taser pour le sauver. C'est qu'on le voulait immobile, on l'a immobilisé. Qu'il ne puisse plus pouvoir, qu'il ne puisse plus vouloir, parce que ce qu'il désirait là n'était pas correct. Le flic préférera toujours le morbide à la mort. C'est pour ça que nous le bannissons de nos fêtes. Et en même temps, qui a envie de voir nos fêtes ?
À la mémoire de l'amnésie, les drapeaux croulant autour d'une stèle phallique pour mieux pétrifier l'histoire. Une colonne de noms et quelques dates butoirs pour s'attrister à heure fixe en experts comptables de leur arithmétique des moribonds. À quoi bon irriguer leur statut de larmes chauvines sans débusquer les commanditaires? Même avec les honneurs, un linceul emballe toujours une belle nécrose. Mort pour l'Empire ou pour un patron, un cimetière c'est tellement beau et tellement con. Tant qu'on trépasse comme on vit, juste une ligne au milieu d'un registre. On passe sans accroc du HLM à la concession à crédit, et ça bouchonne à la Toussaint. La nuit est encore tombée avant la fin du jour sur un lot d'existence terne. Comment digérer une épitaphe sans tomber dans la cérémonie douteuse? Peut-on claquer avec éclat loin des violons la pommade obséquieuse ou le venin bien pensant, bien plus pesant qu'un bloc de marbre? Leur morale confisque chaque centimètre de nos routes, la mort en contresens de la vie. Ma métaphysique par la racine vaut bien quelques transcendances de pacotille. C'est pas allongé, aligné dans une allée que j'irai me distinguer. Heureusement les pompes funèbres avaient un beau catalogue d'envolées plates. On n'oublie jamais ce qu'on aime, surtout avec un surplus de formol en promotion. On aura l'air fringant, les pieds devant, à avoir oublié d'être vivant. Ça ne date pas d'hier, ces évictions en bonne et due forme. Comment s'en rappeler alors, sans déformer le réel des siècles plus tard? Quand les caveaux s'achètent à prix d'or, et que cette mise en scène pitoyable calme les rancœurs, on en rigole encore de ces carnages, tellement on est loin de se sentir concerné. On n'en veut pas de ces rappels à l'ordre, puisqu'ils servent ceux qui nous détruisent. Ils abusent quand même, et le pire c'est qu'on le sait, et qu'on reste sagement levé, la gueule ouverte mais bâillonnée, prêt à tout pour ne surtout jamais rien perdre. À titre posthume, on greffera des pierres sculptées à chaque coin pavé de nos villes demain ou le jour suivant, ivre de tant de médailles, au prix de tant de crimes commis de sang-froid. Des distinctions sur une écharpe brodée ne rendront immense des orbes plus radieux. Avec le temps, on séchera les flaques de sang. Avec le temps, comme à l'accoutumée, on oubliera les détails. Et on ne ressentira même plus le besoin de nommer des responsables. Pour lisser l'histoire et la rendre moins âpre, on déchirera quelques pages ou quelques peuples.
peu importe le nombre de victimes. Cinglante machine nourrie à la chair humaine, elle piétinera nos tombes en nous laissant tous de marbre. À vos statues, aux sourires niais, comme s'il suffisait de demander pardon.